Identité, territoire et création.
Ça fait plaisir de vous voir. Si vous avez besoin de moi, vous criez mon nom, je serai là.
Le 12 juillet 2007, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Festival d'Avignon et la Pensée de Midi s'associaient pour proposer deux tables rondes, identité et territoire, identité et création. Grenouille vous donne à entendre en 7 épisodes le contenu de ces débats animés par Thierry Fabre, ainsi que des interviews des intervenants, philosophes, historiens, géographes, metteurs en scène, écrivains et musiciens, réunis en Avignon pour nourrir la question des identités d'une réflexion à plusieurs voix. Deuxième intervention dans la table ronde Identité et territoire, Benjamin Stora, historien.
J'aimerais maintenant me tourner vers Benjamin Stora et regarder un peu ce rapport sur cette articulation identité et territoire, bah, surtout pour comment se pensent les identités quand il n'y a plus de territoire. Je pense par exemple à ce qui s'est passé pour les pieds noirs en Algérie, ou ce qui, sous notre rapport, se passe pour les exilés ou les immigrés. Dans ces conditions, leur rapport à l'identité se pose, et au territoire se pose dans des conditions tout à fait différentes. Puis après, on viendra sur cette lourde question d'immigration et d'identité nationale. Benjamin Stora.
C'est une question un petit peu difficile. Enfin, là, j'avoue que je n'ai pas tellement réfléchi au problème. Je vais simplement livrer quelques idées en vrac. Il est évident que nous sommes rentrés dans un cycle historique de mondialisation et de circulation, de fluidité extrême de populations qui partent de territoires qui sont les leurs, en état-nation ou pas d'ailleurs, mais qui emmènent avec eux une certaine idée de leur nation pour arriver dans une nation déjà constituée qui s'appelle la France. Donc il faut réfléchir effectivement à la fois à cette attraction extraordinaire qu'a la France, parce que cette construction très politique de l'idée nationale qu'a la France, qu'elle propose au monde, cet universalisme proposé depuis très longtemps maintenant et qui attire incontestablement, enfin ce qu'on appelle la République, l'égalité, etc. Et puis en même temps, cette volonté qui est nouvelle, mais qui maintenant commence à durer et à s'installer, c'est-à-dire de rester fidèle à des origines. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette attraction par rapport au modèle français proposé comme celui de l'universalité républicaine et de l'égalité, et puis cette persistance d'attachement au pays de départ, à l'origine. C'est peut-être ça, à mon avis, qui pose le plus de problèmes aujourd'hui à la société française.
J'aimerais quelques mots sur l'exemple pied noir, parce que lors de la rencontre, on a eu un débat sur les mémoires, en disant mais comment célébrer sa mémoire, être fidèle à sa mémoire quand nation n'existe plus.
Non, mais ça c'est une histoire qui est différente. L'histoire est extraordinaire dans tous les sens du terme de l'Algérie française. C'est une histoire singulière, mais qui là encore vient bousculer un schéma déjà établi de la nation française, puisque il s'agit d'un pays qui s'appelait l'Algérie française et qui a disparu, qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui viennent d'un territoire, les immigrés algériens il y a très longtemps, les harkis bien sûr, les pieds noirs bien entendu, viennent d'une histoire, d'un territoire, d'un pays qui n'existe plus et qui s'appelait l'Algérie française. Ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus, quelque part, se référer à quelque chose qui existe toujours dans le présent. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est différent des migrants dont je parlais tout à l'heure, tout à fait en introduction. Parce que les migrants, quelque part, peuvent se référer à une origine qui existe toujours, qui se poursuit encore, qui existe toujours. Alors que tous les groupes dont on vient de parler, eux ne peuvent pas, encore une fois, se référer à une histoire qui se continue. L'histoire coloniale est terminée. Et donc l'histoire de l'Algérie française est définitivement terminée. Elle est passée, elle est derrière nous. Donc ils sont à la fois dans une situation d'attachement à une origine, à une histoire particulière, à un traumatisme, à un exil, etc. Mais en même temps, Le traumatisme classique du migrant qui s'en va, qui est attiré par la France et qui reste fidèle à son histoire n'existe plus dans le cas qui intéresse ces populations particulières, puisque l'histoire auquel il se réfère est une histoire qui s'est évaporée, qui s'est évanouie, qui a disparu de manière définitive. En d'autres termes, on ne peut plus revenir en Algérie française. C'est terminé. Je veux dire, même si le décor existe encore, le pays n'existe plus dans le sens où on l'avait dans sa tête, sur le plan politique, je parle, hein, sur le plan politique, bien sûr, pas sur le plan de c'est quand même quelque chose d'inouï. C'est-à-dire que la France, elle est confrontée à la fois à la question du maintien de la persistance des origines dans une situation de circulation extrême et de destruction précisément des origines par la mondialisation culturelle et donc à l'attachement à des formes d'origine, mais en même temps elle est confrontée à une histoire singulière qui est une histoire disparue qui ne reviendra plus, qui est l'histoire de l'Algérie française avec des millions de personnes qui vivent sur le territoire français, des millions, hein, pas des centaines de milliers, mais des millions de gens qui ne peuvent plus simplement se référer à cette histoire politique qui a disparu. Vous voyez la complexité du problème, hein, c'est-à-dire que à la complexité du problème des populations sans nation ou sans État vient s'ajouter la complexité de populations qui non seulement n'appartiennent plus à une nation ou à un État, mais peuvent se revendiquer, disons, d'un souvenir, d'une origine, d'une mémoire, d'un traumatisme, d'une guerre, d'un exil, qui lui est bien réel. Alors, ça, lui est bien réel. Le traumatisme, lui, est bien réel.
Donc, ça, c'était
et donc être... c'est une des grandes et graves contradictions à laquelle est confrontée la société française.
Alors, c'est une des composantes, effectivement, dans la relation de la France, de l'identité avec le Maghreb, l'Algérie. Il y a une autre dimension forte qui est liée, au fond, à l'histoire des migrations et qui est une histoire longue, en fait. Je crois que les premières installations de migrants venant d'Afrique du Nord et d'Algérie, c'est juste avant ou tout juste après la Première Guerre mondiale. De ce point de vue-là, c'est assez intéressant de voir aujourd'hui comment on pose cette question sur immigration et identité nationale. Alors, est-ce que l'immigration porterait atteinte à l'identité nationale, Benjamin Stora?
C'est une question.
Une question un peu.
Une question immense, politique, actuelle, polémique.
On est là pour ça. Hein.
C'est, comme vous le savez, bon.
Il y a la distance de l'historien et l'engagement de l'acteur aussi.
Il y a grosso modo, ça, il y a deux façons de procéder sur cette histoire très compliquée. La première, c'est de dire grosso modo que l'autre, l'étranger, celui qui est en situation d'altérité radicale, vient bousculer, ébranler l'idée qu'on peut se faire sur le plan historique et politique de la nation, de la France, l'idée de la France traditionnelle, forgée par l'histoire, viendrait, disons, être bousculée par cet étranger qui, grosso modo, vient d'une culture, d'une histoire radicalement différente de celle de l'Europe, de la France, et grosso modo, venant de l'autre côté de la mer pour aller vite, et grosso modo encore, venant des pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, et venant grosso modo encore d'une histoire différente qui serait l'histoire coloniale.
Et d'une religion.
Pour aller vider encore différente de religion, etc. Vous voyez, je précise encore plus à chaque fois, j'essaye de nommer, parce que vous savez, en France, dans les débats intellectuels, on ne nomme que très peu les choses, hein, on ne les nomme pas. C'est très abstrait quand même. Hein, bon. Donc ça, c'est une première façon d'appréhender les choses. Moi, la seconde façon qui m'intéresse, c'est de voir que la France est quand même confrontée à différents problèmes maintenant depuis pas mal de temps. D'abord, il y a le problème du passage à l'Europe, les problèmes de perte, d'ébranlement de la nation, de perte de souveraineté sur la question du passage à l'euro, l'ouverture des frontières européennes, la circulation des personnes. Ce sont des questions, disons, qui sont des questions très graves, hein, pour la société française depuis maintenant de très nombreuses années. Il y a un affaiblissement du pouvoir d'État qui est manifeste par la poussée décentralisatrice qui s'est exercée quand même depuis de nombreuses années. Or, nous vivons dans un système politique extrêmement centralisé depuis très longtemps. Je ne détaille pas sur ces questions-là. La réduction de la puissance de la France depuis la fin de l'Empire colonial. On a évoqué la notion de frontière, mais la notion de frontière, pour ce qui concerne la France, a été aussi et surtout l'Empire. Et l'empire colonial, et la perte de l'empire colonial, qui n'a pas été suffisamment analysée en son temps, signifie à mon avis, disons, une sorte de blessure très forte, narcissique, hein, du nationalisme français, et en particulier hein, à l'intérieur de la perte de cet empire, ce qui constituait des départements français, qui était l'Algérie française, dont je viens de parler rapidement. Ça me paraît tout à fait central. Et puis aussi, à travers ces crises, il y a les formes de désagrégation de l'autorité, par exemple de l'autorité familiale, des modes de vie qui ont profondément changé, la fin du monde paysan, enfin tout ça sont des choses qui sont très connues, mais dont on parle très très peu dans
le fond. L'accumulation de ces phénomènes.
Il y a toute une accumulation de choses, de paramètres, disons, qui sont absents des analyses lorsqu'on veut bien parler de l'identité nationale, mais tous ces paramètres-là pèsent puissamment aujourd'hui hein, sur la question de l'idée de nation qu'on peut se faire et qu'on aborde assez difficilement. Et donc cette espèce de douleur, de fin de modèle à un passage à un autre modèle est très très mal vécu, à quoi il faut ajouter la fin, bien sûr, des idéologies politiques centralisées qui étaient en France très importantes, mais qui étaient portées d'ailleurs par des idéologies à caractère universaliste, mais qui sont rentrées en crise. Je veux parler bien sûr du communisme, du gaullisme, et voire même du républicanisme, qui étaient des idéologies politiques très françaises aussi, mais qui sont elles-mêmes attaquées, rentrées en crise, et qui permettaient de fabriquer, là ça a été mentionné aussi, qui permettaient aussi de fabriquer de l'imaginaire politique, qui permettaient de fabriquer du vivre ensemble, donc du fabriquer du système politique. Bref, si on additionne l'ensemble de ces facteurs-là, on s'aperçoit, à mon avis, que ces facteurs-là, qui remettent en question ce qu'a été la centralité de l'imaginaire historique français depuis grosso modo deux siècles, est profondément ébranlé.
Donc appelé l'identité de la France.
Exactement, est profondément ébranlé. À partir de là, vouloir faire de l'immigré l'unique facteur moteur de désagrégation, crise de l'identité nationale, c'est transformer les immigrés en bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on aurait effectivement une sous-estimation de l'ensemble de ces facteurs que je viens d'indiquer, et dont on parle assez peu, dans le fond. Hein. Quand on parle d'identité nationale, on parle très peu de tous les facteurs que j'ai évoqués. Ou alors, on les signale pour mémoire, de manière très rapide, en disant, bon, voilà, et on arrive tout de suite au facteur central, décisif, prioritaire, émergent, s'installant dans le centre de la vie culturelle française, l'autre. L'autre, encore une fois, venant du sud, de l'autre côté de la mer, de l'histoire coloniale, du rural, etc. etc.
Mais bon. Comme si on n'avait pas d'histoire commune, justement. C'est ça
alors
qui est
que,
frappant.
Ça, c'est encore une autre question. Alors que, précisément, tout ce qu'a construit et fabriqué la France depuis deux siècles, c'est-à-dire que de manière très puissante, très homogène, très centralisée, cette idée de la France, on parlait de Gaulle, parlait d'une certaine idée de la France et pas d'une certaine identité de la France, précision, hein, très importante. Donc cette idée de la France, qui est ébranlée, hein, précisément, hein, par tous les paramètres, dont ceux, effectivement, de la mondialisation économique, qui sont ne pas à négliger non plus, donc d'une crise sociale, hein, extrêmement importante et profonde, avec une remise en cause du modèle social français et avec un accroissement, disons, du nombre de pauvres en France. Toutes ces questions-là, c'est cela qui fabrique l'identité nationale. Or, c'est pas en créant un ministère qui évacuerait l'ensemble de ces questions qui doivent être traitées par le ministère de l'Éducation nationale, par le ministère de la Justice, par le ministère du Travail, etc., pour transformer et faire et fabriquer de l'immigration et faire de l'immigration le seul facteur, dans le fond, hein, qui permettrait de régler la question de l'identité nationale, c'est, à mon sens, un renvoi exclusif et dangereux.
Merci. Je crois que là, on est dans un débat d'une assez grande actualité, une question qui ne cesse de se poser, de se reposer. Et c'est vrai que dans un territoire comme celui de cette région, où les immigrations venant de l'autre rive de la Méditerranée et du Maghreb en particulier sont importantes, on voit avec quelle acuité ces questions se posent du rapport immigration-identité et les types de faux débats qui peuvent naître.
À l'issue de cette première table ronde, Identité et territoire, animée par Thierry Fabre, nous avons recueilli quelques propos complémentaires de Benjamin Stora, historien. Les voici.
Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'à votre avis, la question de l'identité est une question générationnelle ? Est-ce qu'elle touche aujourd'hui plus particulièrement une génération de jeunes dont les difficultés sont grandes pour intégrer la société et que cette problématique de l'identité aujourd'hui, que l'on voit partout, médiatisée notamment, est avant tout la problématique d'une génération ?
Moi, je pense effectivement que la question de l'identité a ressurgi
pour différentes raisons. Hein. Les différentes raisons, nous les connaissons. Hein. C'est la panne du futur en termes d'idéologie collective. Il y a aussi, bien sûr, la crise du modèle social français que nous connaissons évidemment. Il y a la mondialisation culturelle, donc les replis, les résistances sur les mémoires de groupe, sur les identités particulières. Et dans ces replis, il y a effectivement la volonté de se fabriquer son propre territoire en rapport avec sa propre histoire, qui est l'histoire de son père, l'histoire de sa famille, l'histoire d'exil, de traumatisme, de déplacement. C'est-à-dire qu'on se fabrique un territoire qui est peut-être aussi un territoire où on se protège des empiétements de l'État, des empiétements de l'autre, des agressions possibles. Donc il y a, dans la construction de l'identité, à mon sens, un facteur, pourquoi pas, positif. Bon. Mais il y a aussi un facteur négatif, qui est celui de l'enfermement, du repli sur soi, de la rumination, et puis, bien sûr, dans l'enfermement sur soi, l'identité exclusive, c'est-à-dire d'être uniquement dans une fabrication identitaire qui soit exclusivement religieuse. Bon. Donc il y a à la fois un aspect qui, à mon sens, est normal et évident, qui est de se protéger, surtout que lorsque l'État est absent dans la parole publique au niveau de l'histoire, et donc de se fabriquer un territoire, un refuge. Donc ça, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Il ne faut pas, considérer que cela est négatif, condamnable, etc. C'est quelque chose de tout à fait évident, enfin. Mais en même temps, dangereux, parce que ça cloisonne, ça isole des autres, etc.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans cette première table ronde, aujourd'hui associer immigration et identité nationale, comme il est proposé de le faire dans un ministère, est une chose un peu curieuse, étonnante. Est-ce, à votre avis, pour mieux les opposer, est-ce que c'est un amalgame qui dénote d'une certaine complaisance à l'égard du nationalisme ?
C'est au moins une vision de la nation et donc du nationalisme qui est très particulière, c'est-à-dire qui ne vise pas à comprendre et donc à fabriquer du récit national à partir de multiples facteurs, mais à partir d'un seul facteur, qui est l'arrivée de l'autre. C'est l'arrivée de l'autre qui est considéré comme le facteur central, le facteur décisif qui fabrique ou détruit l'identité nationale. Or, nous savons que si l'autre, bien sûr, est un élément important, hein, qui joue dans la fabrication du national, il n'est pas le seul. Il y a les institutions politiques, il y a la pauvreté sociale, il y a le rapport au monde, il y a la question de l'autorité familiale. Il y a toute une série d'outils de socialisation qui vont du parti politique au syndicat, du mouvement associatif à l'autorité familiale, qui disent le national, qui fabriquent du national. Bon. Et isoler la question de l'immigration comme étant la seule question ou la référence principale et exclusive des autres pour fabriquer du national, c'est effectivement une conception de la nation qui se replie sur soi et qui fait de l'autre un ennemi potentiel.
Merci Benjamin Stora.
Après l'histoire, la géographie, rendez-vous demain à la même heure pour la troisième de cette série d'émissions enregistrées en Avignon à l'occasion des tables rondes qui étaient proposées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Pensée de Midi et le Festival d'Avignon. On y entendra cette fois-ci l'intervention de Jacques Lévy, géographe.